Semua tak nampak, tidak mahu semua tegak dan nampak. Tak tahu dan mahu dewa, tak tahu sebab aku buat dan mahu. Dia dapat tidak dapat, tak tahu buat tak dapat. Dia dapat, dia boleh, dia dapat, dia dewa. Dan dia betul, tak ingat, apa dia tahu. Dia tak tahu, ada jauh, lapan, dia dapat tegak semua. Lagi, tak tahu, 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 tak tahu.
Salut, moi c'est Laura, je vais présenter la nouvelle émission Aux Ressources, une émission bien cash qui va parler d'argent. Je vais interroger des artistes, des intellectuels sur leur financement, leur salaire, les modèles économiques de leurs œuvres. Pour cette première édition, je vais interroger Alain Guiraudy, le cinéaste de Le Roi de l'Évasion et de L'Inconnu du Lac. Pour cette première édition, j'ai eu envie de vous rencontrer. Alain Guiraudy, parce que, outre le fait que j'ai beaucoup aimé votre dernier film « L'Inconnu du Lac », plus près de notre sujet, j'avais été interpellée par votre prise de position lors du débat sur la convention collective, dont on parlera en deuxième partie. Et plus généralement, vous pratiquez un art où la question des moyens matériels se pose avec acuité. Si vous étiez peintre, vous auriez un désir de tableau, vous iriez acheter une toile de la gouache et c'est parti. Là, vous avez un désir de film, une histoire à raconter et il faut d'abord trouver 1 million d'euros.
Oui.
Plus ou moins. Ouais. Donc, avant même de pouvoir parler de lumière, de mise en scène, d'acteur, il faut trouver du pognon. Donc, comment ça se passe très concrètement à partir du moment où vous avez cette idée? Qui vous allez voir? Est-ce que c'est le producteur? Enfin, comment ça se passe?
Sur un cas comme L'Inconnu du Lac, je pense que même c'est intégré dès l'écriture, hein, cette idée, quoi. Je veux dire, je me dis, je vais faire un film avec une équipe légère, très peu de comédiens, un seul lieu. Ouais. Et qui va pas nous coûter cher parce que c'est un lieu, enfin c'est de l'ordre de l'espace public, quoi, voilà. Ça veut pas dire que ça coûte pas cher, mais en fait, c'est l'idée de faire un film. Je voulais un peu renouer avec l'énergie du soleil pour les gueux, moi, c'est-à-dire, hop, j'écris en hiver, je prépare au printemps, je tourne l'été et je monte l'hiver d'après, quoi, automne-hiver après, voilà. Et on est prêt pour Cannes. Et puis en plus, voilà, je me dis, comme il y a moins d'argent à chercher, tout ça va aller très vite, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ça se passe pas comme ça, puisque effectivement, ben oui, j'en parle à ma productrice, à Sylvie Piana.
Vous écrivez d'abord un scénario?
Ouais, mais j'ai écrit le scénario très rapidement. Ouais. Oui. Je lui fais part rapidement du projet, de mon projet d'écriture, de ce dont ça va parler. C'est-à-dire deux mecs à poil autour d'un lac et d'une histoire d'amour avec un meurtrier. Voilà, donc grosso modo, j'envoie quelques lignes dessus. Allez, ça fait une demi-page, quoi. Voilà.
Et votre productrice, donc c'est les films du Warsaw.
C'est les films du Warsaw, oui.
Comment, pourquoi vous venez ici? Vous avez déjà fait un film.
Parce qu'on a fait Le Roi de l'Évasion ensuite, et que d'abord, et puis que j'ai travaillé pendant 8 mois. Payé à l'écriture d'un scénario avec un autre scénariste, avec Laurent, le complice d'ailleurs du Roi de l'Évasion. Et on a vraiment travaillé pendant 8 mois sur un scénario à 4 mains, hein, vraiment tous les deux, tout le temps, quoi. C'est la première fois que je faisais ça. Puis moi, j'étais pas très content de ce scénario, quoi. On n'était pas très content de ça à l'arrivée. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai écrit ça, voilà. Mais ça a été très vite, hein. Moi, c'était l'idée. Je commence pas à me barrer dans une écriture d'un an et demi ou de 2 ans, quoi. Voilà. Donc voilà. L'écriture, moi, c'est 1 mois et demi, hein, de L'Inconnu du Lac. C'est super rapide. Donc voilà, avec l'idée. Donc j'écris ça, ouais, comme je vous dis, novembre-décembre. Avec l'idée de tourner ça l'été suivant, mais on n'a pas l'avance sur recette du premier coup, ça intéresse pas Arte, ça intéresse pas Canal, ça intéresse juste la région PACA,
ouais.
Voilà, c'est-à-dire PACA, 200 000, qui file 200 000 euros quand même, quoi, voilà.
Parce que vous allez utiliser des techniciens locaux?
Je ne sais rien, non, parce que je demande de PACA, parce que je fais un film complètement en extérieur, au bord d'un lac où les mecs sont à poil, donc je demande les deux régions les plus ensoleillées de France, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon et PACA. Voilà. Ouais. Même Aquitaine ou Midi-Pyrénées, ça marche pas, c'est trop pluvieux déjà, trop risqué. Et même PACA, on s'apercevra au tournage que même c'était quand même un peu, c'était quand même risqué, quoi. Voilà. Et puis...
Mais la production apporte de l'argent ?
Non, non, non. là, à ce stade-là, non. Non, non, ah, à ce stade-là, d'accord. Non. Après... après... c'est 200 000 euros, bon... il y a ces 200 000 euros de PACA, donc on renonce, ouais. je dis, bon, mais moi je ne le fais pas avec 200 000 euros, quoi, ouais. Voilà. La question m'est posée, hein, de le faire avec 200 000 euros.
Ah oui, ça aurait été possible.
Bah oui, c'est possible, sans payer personne, ouais. Rien, ouais, on peut toujours faire, avec, j'y vais avec un appareil photo, on fait le film. Hein.
Ouais.
Mais ça ne m'intéresse pas, quand même, j'ai une certaine j'ai quand même un minimum d'ambition dans la vie, quoi, voilà, je ne veux pas non plus tomber. Et puis en plus, c'était pas, enfin, je veux dire, c'était à côté de la plaque, complètement, quoi, il y avait une économie, c'était pas cohérent.
Vous l'avez budgété à combien ?
C'était pas cohérent. Donc, pour moi, dans ma tête, il faisait 1 million.
Ouais.
Le film n'était pas encore budgété réellement par un directeur de prod. Moi, je me disais, c'est 1 million d'euros, mais je n'en savais rien, quoi. Enfin, je veux dire, mais la production pensait que c'était 1 million d'euros. Ouais. Voilà, bon, on cherche 1 million d'euros. Et puis, donc, moi, je décide de réécrire, de représenter à l'avance sur 7. Et quand même, on décide d'en remettre un peu une couche auprès de Canal, d'Arte, qui étaient un peu les deux trucs qui pouvaient financer, les deux chaînes de télé qui pouvaient financer
là,
ça.
C'est vous qui allez, c'est vous qui vendez votre film ou c'est...
Non, c'est un travail de production. C'est un travail de la production. Mais effectivement, après, je ne sais pas moi, c'est du travail de production, mais qui se fait essentiellement sur le scénario. Ouais. La recherche de financement en France, c'est une cata pour ça. Ça se recherche, on recherche que sur le... que sur scénario, quoi.
Alors, enfin,
on a l'impression de ça, que ça se recherche que sur scénario. Ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, quand on commence à avoir Danny Boom, Karine Viard, ou Michel Larocque, peut-être que le scénario passe un peu au second plan, on s'en fout un peu plus, quoi. J'en sais rien, j'ai jamais fait de film comme ça et j'ai jamais été démarché. Bon, mais j'ai l'impression quand même que, en France, le scénario, et d'ailleurs, je sais pas... j'imagine qu'il y a des scénarios. Parce que moi encore, j'ai une chance, c'est que j'écris des scénarios. Et ça me plaît d'écrire des scénarios avec des personnages qui dialoguent, il y a une narration. Je ne sais pas comment ça se passe pour... pour un film comme les films de Bruno Dumont, ou les films de... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple aussi, comme des gens qui travaillent beaucoup, comme Justine Trier, ou pour parler des plus jeunes, Sophie Le Tourneur, par exemple, je sais pas. Des gens qui ne font pas un scénario un cinéma à proprement parler, deux scénarios, quoi. Je sais pas comment ça se passe, le financement. Bon, voilà. Mmh. Mais c'est vrai que l'avance sur recette, par exemple, on l'a sur scénario. C'est essentiellement un travail de, on fait le scénario, il y a un scénario, une note d'intention, et puis voilà, quoi. Et donc, il y a eu l'avance sur recette, puis, donc, il y avait l'avance sur recette. Ouais, mais dès l'instant qu'il y a eu l'avance sur recette, j'étais OK pour tourner.
Et
quoi.
Il y avait combien ?
Je ne sais pas exactement, je ne connais pas exactement. Je sais que le montant définitif du film, le film s'est fait avec 850 000 euros.
Ouais.
Voilà, donc l'avance sur recette. Derrière, les films du Orso trouvent une Sofica, une société d'investissement dans le cinéma. Quoi.
C'est une niche fiscale, c'est ça ?
Peut parler de niche fiscale. Ouais. C'est des gens qui... C'est de l'argent privé qui se défiscalise là-dedans, quoi, voilà, dans le cinéma. Les Sofica, moi, je n'ai pas toujours complètement compris à quoi ça, comment ça marchait. Ouais. Techniquement, je sais que c'est de l'argent qui vient dans le cinéma.
Ouais.
C'est pas tant que ça, c'est un apport, c'est 100 000 euros, admettons.
Ouais.
Quoi. C'est pas tant que ça, et c'est quand même eux qui se remboursent dès le début.
Ah ouais.
Quoi. Voilà.
D'accord.
Voilà, donc ils disent que c'est même de l'argent cher, quoi, voilà, grosso modo.
Ouais.
Et puis, comme il n'y a pas le million de... De toute façon, voilà, on était au taquet, je crois, avec 800 000 euros ou 750 000. Donc, le film est devisé, il y a un directeur de prod qui rentre en piste, qui fait le devis, on a 950 000 euros, il faut gagner 100 000 euros, je crois. Voilà.
Ouais.
Donc, la production décide de prendre 50 000 euros à sa charge.
D'accord.
Et nous demande d'en économiser 50 000 sur le devis.
Et
voilà.
Du coup, ça va être quoi la variable, justement,
La première variable d'ajustement, c'est quoi? Moi, je fais sauter quelques trucs. Le premier devis avait été fait avec des salaires à moins 20, à moins 20%. Des salaires à moins 20, parce que ça, c'était une chose qui était un peu acquise dans le cinéma. On s'est posé la question de est-ce qu'on met à moins 30 ou est-ce qu'on met à moins 20. Bon, on a décidé de garder à moins 20. Ouais. Voilà. Le directeur de production était très pour garder à moins 20. Et bon, voilà, on était assez pour. Et puis finalement, on a réussi à gagner sur d'autres ouais. postes. On a gagné les. Je ne suis pas sûr qu'on ait gagné complètement les 50 000 euros qu'on devait gagner, mais on a en grattant un peu par-ci par-là. Oui, voilà. Bon, évidemment, après, ça fait une concession de ma part, mais de toute façon, moi, j'avais dit dès le départ aussi que non, moi, j'étais pas prêt à concéder tant que ça, quoi. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, ça, c'est des choses. C'est au bout d'un moment, faut aussi. C'est une question que j'aime bien gagner ma vie normalement déjà. Et puis c'est une question que c'est une question d'ambition, quoi. Voilà. C'était un film. C'est pas parce que c'est des mecs à poil sur une plage et qui draguent dans les bois que j'allais faire ce film au rabais. Ouais. C'est un film épuré et peut-être minimaliste, ouais. mais je voulais pas le faire. Voilà. Il n'était pas question de le faire au rabais. Voilà. Ouais. Au bout d'un moment, moi, il faut. Si on décide de produire un film, on met les moyens, quoi. Voilà. J'en ai un peu marre aussi qu'il y ait cette exigence. Vis-à-vis du cinéma dit de la diversité, ouais. que, ok, faites vos trucs, mais faites-les dans votre coin, ça nous emmerde, ça nous trop demander ouais. d'argent, quoi, voilà.
Et concrètement, c'est combien le salaire du réalisateur
Moi, c'est 80 000. J'avais demandé pareil que sur Le Roi de l'Évasion, dans un premier temps, c'est-à-dire 80 000 euros.
Ouais.
Et c'est tombé 80 000 euros, moitié en droit d'auteur, moitié en salaire. Ouais. Hein, voilà, il y a du droit d'auteur et salaire. Ouais. Et on est en brut, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que me sont prélevées mes charges à moi sur ça. Voilà.
Okay.
Donc, c'est tombé à 70 000.
Ouais.
Voilà. Mais avec un truc, la production a été très rigolo sur cette affaire-là, que si jamais il y avait de l'argent qui venait ensuite, on me filait 20 000 en plus.
Ouais.
Il y a de l'argent qui est venu ensuite, j'ai gagné 10 000 euros de mieux que mon contrat initial.
Ouais, voilà.
Pour être là, je suis totalement transparent.
Voilà. Et vous payez vos impôts
Et je paye mes impôts en France. On arrive à grignoter peu ou prou 50 000 euros comme ça, et plus des 50 000 euros que prend la production en risque qui viennent s'ajouter à ça.
Ok. Voilà. Et alors, le film sort, il fait plus de 100 000
c'est un gros succès.
C'est un gros succès. Il y a une remontée de recettes pour quand.
Alors ça va falloir que je m'en inquiète, Oui, il y a des couloirs de remontée de recettes, mais c'est par exemple ça, j'ai pas idée de qu'est-ce qui revient à la prod là-dessus, ce que gagne la production et ce qui va me revenir. Pour l'instant, j'ai jamais eu de remontée de recettes. Ça prend quand même du temps qu'un film s'amortisse, quoi.
Ouais.
Voilà. Je sais pas. Ouais, effectivement, il doit pas être trop long à amortir. Et en même temps, 130 000 entrées, je sais pas ce que ça rapporte. Concrètement.
Ouais.
Voilà.
Parce qu'en plus, vous n'êtes pas les premiers, parce que vous disiez, il y a les Sofica qui se sont remboursés d'abord.
Ouais, il y a
les
Sofica. Il y a des systèmes de rachat de la Sofica. Enfin, écoutez, je ne vais pas rentrer dans des trucs. Parce qu'il y a de l'argent qui est arrivé après, quand même pas rien, il y a 400 000 euros d'Arte qui est arrivé. Quoi.
Ah oui, après avoir vu le film,
la sélection à Cannes même, on peut même aller jusqu'au bout. Quoi, hein, voilà, il y a eu le changement de. C'est Olivier Père qui est passé à Arte. Donc, je veux dire, ils ont vu le film, et bon, ça leur a beaucoup plu, et donc ils ont acheté le film.
Ah,
voilà. Ils sont rentrés en coproduction.
Oui.
Voilà.
S'ils achètent ou s'ils rentrent en coproduction.
Je comprends rien en fait. Mais c'est-à-dire que moi, rentrer en coproduction après que le film ait été produit. Oui. Et c'est, alors moi, c'est un truc qui me passe au-dessus de la tête. Voilà, c'est, bon, oui. Je crois qu'il y a Carté qui a le droit de faire ça en plus. Et je ne sais pas par quel mystère, voilà, les voix de l'audiovisuel public sont assez insondables pour moi. Quoi, voilà.
Bon, en tout cas, dans tous vos films, vous n'avez jamais eu de remontée de recettes pour tous vos anciens films.
Non, mais les anciens films, moi, pour tous mes films avant L'Inconnu du Lac, en termes d'entrée, j'étais au taquet à 30-35 000, quoi. Voilà, donc ça faisait très peu d'entrées, quoi. Voilà. Et, non, je pense que les remontées de recettes pour un réalisateur, soit il faut faire beaucoup d'entrées, parce que c'est des 0,02%.
Ouais.
Hein, on est sur des chiffres comme ça sur mes contrats, quoi. Mmh. Ou 0,2% après amortissement du film. Je pense qu'il faut un certain temps, quoi. Voilà. On n'a pas assez de recul. Hein. L'exploitation du film est même pas terminée, quoi. Il est encore visible à Paris, au Brady. Par exemple, voilà. Donc.
Ouais. Et là, pour le prochain, ça devrait être beaucoup plus facile d'avoir des financements.
J'en sais rien. Par exemple, c'est un truc. Si je veux refaire un film à 1 million d'euros, je pense que je le fais l'été prochain.
Ouais.
Je l'écris en février, j'ai le pognon en juin. Oui, je pense. 1 million d'euros, ça si je veux faire un film à 3 millions d'euros, ça va être une autre paire de manches. Enfin, si je veux refaire, je sais pas ce que ça donnera. Voilà. Mmh. Je ne vais rien supputer, mais je ne sais pas ce que ça va donner en recherche de financement sur un film à 3 millions d'euros, à caractère social, avec, sans star dedans, sans personne de connu. Voilà. Ouais. Si je repars sur ces bases-là, qu'est-ce que ça...
C'est une question de principe sans star, ou de préférence
Est-ce que c'est... Non, en plus, c'est pas du tout une question de principe, non. C'est une question que c'est bien de trouver de mettre la bonne personne à la bonne place, quoi. Ouais. Et que pour l'instant, sur mon prochain projet, il n'y a pas d'évidence, quoi. Ça m'est arrivé, par contre, de proposer des rôles à des comédiens connus. Qui ont refusé. Et qui ont peut-être bien fait de refuser, d'ailleurs. Ouais, voilà.
Bon, on va parler de la convention collective. Je vais peut-être rappeler le contexte. Donc, dites-moi si je me trompe. C'est en janvier 2012, après 7 années de négociations, que une convention collective est signée. Donc, c'est une négociation entre le gouvernement et les différents...
Non, normalement, c'est juste entre ce qu'on appelle les partenaires sociaux.
Ah, ouais,
d'ailleurs, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. La convention collective est signée entre un syndicat de producteurs et 7 syndicats de salariés.
OK.
Ou 6, je ne sais pas. Enfin, tous les syndicats de salariés à la table de la convention, sauf la CFDT.
OK.
Voilà.
Ouais. Donc, représentant tous les métiers de la
production. Par contre, le gouvernement prend l'initiative d'étendre la convention, d'étendre la convention à toute la profession. Ça se fait sous l'égide du ministère du Travail.
Ah ouais.
Voilà. Okay. Bon, le gouvernement entre en jeu à ce moment-là.
Okay.
Voilà. Ça se fait quand même sous l'égide du gouvernement, ça. Ah oui, oui. Ouais,
donc, ça, c'était l'arrêté en juillet là, 2013, et ça devait entrer en vigueur en octobre. Et là, grosse levée de boucliers de la part de nombreux réalisateurs ou producteurs indépendants qui disent qu'ils ne pourront plus faire les petits films ou les films du milieu. Et finalement, donc, c'est renégocié, assoupli, et il y a des dérogations maintenant. Donc c'est ça, il y a des dérogations pour les films dont le budget est inférieur à 3 millions d'euros.
Ouais. Disons que oui, on doit même une fière chandelle à Aurélie Filippetti là-dessus. Enfin, les opposants à la convention collective doivent une fière chandelle.
Voilà.
C'est aussi sous l'égide du ministère de la Culture qu'il y a eu des renégociations et des choses comme ça. Quoi.
Vous étiez l'un des rares à défendre la version originale, pas maximaliste, comme disent les opposants. La convention collective.
Déjà la version originale. Ce qui avait été signé effectivement en janvier 2002, qui était supposé être 2012, et qui était supposé être étendu, quoi. Voilà, sachant qu'il y avait déjà un régime dérogatoire de 5 ans pour les films à moins de 1 million d'euros, qui permettait quand même aux premiers films ou aux films vraiment fauchés de continuer à se faire en attendant de trouver aussi de réfléchir. politiquement à tout ça aussi, à qu'est-ce qu'on allait faire quoi, pour ces films-là. Moi j'étais favorable à l'extension de la convention.
Parce que ce qui laisse perplexe dans cette histoire, c'est qu'on a du mal à trouver la position de gauche, puisque les syndicats de techniciens principaux avaient signé, donc ça oui, mais aussi les gros diffuseurs exploitants, MK2, UGC, avaient signé aussi, donc on voyait donc ces gros méchants être pour la hausse du coût du travail, et d'un autre côté, les gentils cinéastes, producteurs indépendants, être contre. C'était clairement une avancée pour le droit du travail, avec, on rappelle le principe des heures sup majorées, des heures de travail de nuit majorées, etc. Donc, on s'y reconnaissait plus, la position,
c'est très compliqué effectivement, puisque il y a même collusion finalement, même chez les anti-conventions, les gens qui sont contre la convention. Il y a aussi collusion entre, parce que je peux aussi renvoyer l'argument dans ce sens-là, c'est-à-dire entre des gros producteurs indépendants, Marc Missonnier, Fidélité, c'est pas une petite prod, et les petits jeunes, des jeunes réalisateurs qui flippent sur, j'en avais discuté avec quelques-uns, pas mal, qui flippent sur comment ils vont pouvoir faire leur film s'il y a pas moyen s'il y a pas cette souplesse-là, quoi. Et même, on a même vu des techniciens monter au créneau là-dessus, quoi. Des techniciens qui se disent, moi j'ai une copine monteuse qui se dit, moi écoute, j'ai jamais travaillé au tarif syndical, comment est-ce que je vais faire pour travailler maintenant s'il n'y a pas cette souplesse-là, quoi. Tu vois, elle sent qu'elle va plus du tout bosser, quoi. Voilà. Moi après, je prends le problème. Et moi-même, je me suis vachement posé de questions au début, quoi. Et puis je continue à m'en poser, effectivement. Mais. J'ai l'impression que si on raisonne sur tout, en règle générale, en restant dans le statu quo et en se disant comment on se démerde d'une avancée sociale avec, sans briser nos habitudes, en restant comme on en est, on n'avance jamais, quoi. Je veux dire, j'imagine les petits artisans, quand ils ont entendu parler des congés payés en 36, mais ils se sont dit, attends, s'il faut que je paie 15 jours de congé payé à mes ouvriers, c'est fini, je mets la clé sous la porte. J'ai trouvé ça intéressant, la convention collective, parce que d'une part, sur les petits films, franchement, même sur un film comme L'Inconnu du Lac, qui n'est pas un petit film, qui est un grand film, mais à petit budget, je me dis, qu'est-ce qui nous manquait, honnêtement, qui nous manquait pour payer les gens au tarif? Il nous manquait 100 000 euros.
Oui.
Voilà.
100 000 euros.
100 000 euros, c'est si dur que ça, à les trouver, quoi. Au bout d'un moment, c'est ça, c'est, je me dis, Arte serait rentré en piste dès le début. C'est bon, on était, et même j'augmentais mon temps de tournage, quoi. Donc, sur les petits films, honnêtement, je pense pas que ça soit autant un problème que ça. Effectivement. Et là, c'est à Aurélie Filippetti, tout bon ministre de la Culture qu'il faut en référer, au directeur du CNC, la directrice actuellement, et tout ce monde-là. C'est-à-dire que faut aussi se poser la question, faut être dans des gestes politiques forts derrière, faut accompagner ça de gestes politiques forts et de dire, et de se poser la question de quel cinéma, quelle cinématographie on veut préserver, on veut sauver en France et on veut aider, quoi. Voilà. Et si on veut tellement un cinéma de la diversité, on arrête de dire le cinéma de la diversité, c'est les jeunes mecs et les techniciens et tout ça qui prennent ça en charge avec leur énergie et puis leur abnégation et leur pauvreté. Voilà, non, on y met les moyens, quoi. Voilà, on y met les moyens. Et le CNC, quand Andrea Malraux a créé ça, quoi, je veux dire, ça a aussi été créé dans cet esprit, dans l'idée de. De prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres, quoi, pour redistribuer l'argent au sein du cinéma et permettre l'émergence des jeunes mecs et des jeunes cinéastes. Je dis mec, je suis con, vraiment, des jeunes cinéastes et puis permettre que soit encore possible de faire un cinéma qui ne rapporte pas d'argent, qui ne soit pas inféodé au marché, quoi. Voilà. Et je pense que ça, il faut le remettre à plat, hein, par exemple, au niveau du CNC, quoi. Tout comme il faut le remettre à plat au niveau des chaînes d'un cahier des charges qui est absent des chaînes publiques, France 2, France 3, en termes de production. En termes de production des films de la diversité, ils sont soumis à aucun cahier des charges, alors que Canal+, qui est une chaîne privée, est toujours soumise à ce cahier des charges. Je pense que pour les petits films, enfin, moi je pense que c'est intéressant même comme point d'appui pour dire, pour les petits films, pour les films à petit budget, c'est intéressant comme point d'appui pour dire, quel cinéma on veut, voilà. Après, je pense que le vrai problème, et c'est quand même ce monde-là qu'on a vu monter au créneau, c'est pour les films, le cinéma du milieu, quoi. Cette espèce de cinéma de ventre mou du cinéma français, un peu, cette espèce de mieux-disant culturel, mais quand même très moyen, quoi, qui est finalement un cinéma un peu sans ambition, mais qui a toujours besoin de 4-5 millions d'euros pour faire, leur film, ou 3 millions, on sait pas trop. Moi, je me dis, quand je vois ce qu'on fait avec 1 million d'euros, je me dis, merde, ça passe leurs 4 millions, quoi. Mais quand même, 4 millions, ça suffit pas complètement, donc il faut aller grignoter sur les salaires, et là, il faut aller grignoter sur les salaires, et j'imagine que sur un budget de 4 millions d'euros, les salaires, ça représente beaucoup.
Oui.
Je pense. Et je pense que c'est une grosse enveloppe, quoi. Effectivement, là, on parle de le surcoût d'un film avec la convention collective. Mais ils sont bien gentils. Pourquoi ils parlent d'un surcoût d'un film? Enfin, il y a un problème de budgétisation, quoi. C'est-à-dire, moi, si un film coûte, si on englobe réellement les salaires. Il ne s'agit pas de surcoût, c'est avant, il y avait moyen de baisser le coût. Mais sinon, le coût normal d'un film, si le film avec les salaires au tarif, parce qu'il y avait un tarif avant comme base aussi, quand on parlait de moins 20 ou de moins 30, il y avait un tarif. Donc le film au tarif, eh bien, si c'était 4 millions d'euros, c'est 4 millions d'euros. Mais on me dit qu'il y a des surcoûts de 800 000 euros. Ça veut dire qu'ils avaient fait un film budgété à 3 millions 2 et en mettant les salaires au tarif, ça fait 4 millions. Je veux dire, autant dire que le budget du film, c'est 4 millions et autant se démerder pour trouver les 4 millions. Bon, et peut-être que peut-être les salaires, enfin on sait très bien qu'il y a des films du cinéma du milieu où les techniciens sont à moins 30 et on a des petites stars, quoi, qui en plus, franchement, je suis pas sûr que les gens se déplacent spécialement pour voir ces petites stars qui prennent 300 000 euros, quoi, pour un film, 300 000 euros pour un film, pour un comédien, ou 400, moi je m'excuse, mais c'est beaucoup d'argent, quoi. Je veux dire, peut-être que tous ces trucs-là, le star system aussi, c'est intéressant de le remettre à plat. Et y compris dans le cinéma d'auteur, le star system est encore en vigueur, moi j'ai l'impression, quoi. Enfin, j'ai l'impression, je suis sûr.
Il n'y a pas aussi quelque chose dans le milieu du cinéma qui est une instrumentalisation de la passion des gens? Les gens sont tellement heureux de travailler là-dedans qu'ils pourraient presque le faire gratuitement et ils le disent.
Je sais pas si c'est.
Les producteurs en profiteraient, quoi.
Je sais pas si c'est instrumentalisé. j'en sais rien. Enfin, oui, c'est évident que sur. Je pense que c'est évident que sur un premier long, un réalisateur, il est prêt même, je pense, à payer pour. Oui. Surtout que, en plus, généralement, quand même, les réalisateurs. Pas mal de réalisateurs et pas mal de techniciens sont quand même issus de bons milieux, quoi. Arrivent à vivre, n'ont pas forcément besoin de ça pour vivre souvent, quoi. On est quand même dans la petite bourgeoisie, quoi, généralement, quoi. Donc, Oui, je pense autour de moi même, je vois le nombre de gens qui ont fait des courts-métrages à tire larigot bénévolement chez les techniciens, c'est de la folie, quoi. C'est même, il y a même beaucoup de générosité, quoi. Voilà. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai jamais eu de mal ça n'a jamais été une bataille pour faire une heure sup à une équipe, même une équipe pas payée, quoi, pas payée au tarif. Hein. Je veux dire, moi, j'ai jamais eu, d'électro qui me coupe le groupe électrogène ou qui me coupe l'électricité. Après, j'ai jamais fait 5 heures sup. Hein.
Ouais.
Voilà,
ouais.
J'ai jamais tiré sur la corde non plus. Mais je trouve que quand même, il y a dans la profession, les gens jouent le jeu, quoi. Voilà.
Mais, alors, ce que disent les opposants au texte, c'est que cette convention collective ne respecte pas la flexibilité qui va forcément avec un tournage. Ouais. Et que c'est même pas forcément que la question des salaires plus élevés, c'est que ça serait très rigide, ou en tout cas la version originale.
Oui, non, mais oui, je sais, on a vachement entendu parler du truc de si tu prends, tu peux pas prendre un stagiaire déco, sinon il faut le payer comme stagiaire déco, comme le chef déco, voilà, c'est-à-dire faut. Mais bon, ça, c'est des sauvegardes qui ont l'air, qui me paraissent évidentes, c'est-à-dire il est interdit de prendre un deuxième assistant réalisateur si le poste de premier n'est pas pourvu.
Ouais.
C'est-à-dire, grosso modo, on ne peut pas payer le premier assistant au salaire de deuxième. Voilà, ça me paraît assez évident. Oui, je sais. C'est une industrie, quoi. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, tout le monde n'est pas obligé de faire du cinéma, quoi. Ouais. Je veux dire, on peut aussi écrire des livres tout seul, dans son coin, des romans, on peut faire de la peinture, on peut, voilà. C'est aussi un truc qui m'intéresse, moi, quand même, dans le cinéma. C'est qu'il y a la phase solitaire de l'écriture, il y a la phase communautaire du tournage, de la préparation et du tournage, et où on se reprend le réel dans la gueule après avoir bien rêvé sur le papier, hein, c'est sûr. Mais c'est cette dialectique qui est de vachement intéressante dans le cinéma et qui est très, qui moi en tout cas m'intéresse beaucoup, quoi. Et y compris le côté, eh ben, une journée de travail, ça fait 8 heures. Bon, sachant que dans le cinéma, ça ne fait pas 8 heures. C'est-à-dire, ça aussi, ils sont gonflés, les mecs, quoi. Ils disent, ah ouais, la semaine, le travail, le chef, les mecs, ils gagnent des salaires mirobolants. Enfin, ouais, Guédiguian qui sort ça quand même dans son article sur Le Monde. On vous parle de salaire de 2 500 € par semaine, quoi. Il est chié, quoi. Déjà, j'aimerais qu'il mette son salaire à plat, quoi. Voilà, j'aimerais le voir, son salaire à lui aussi, en tant que réalisateur, quoi. C'est quand même des mecs, quand ils font un film, c'est généralement un réalisateur du cinéma du milieu, c'est des contrats entre 200 et 300 000 euros aussi, hein. Enfin, ils gagnent bien leur vie, quoi.
Ouais.
Et la semaine de travail, bon, déjà, les mecs sont pas payés. Et il y a 3 postes, directeur de prod, chef déco, chef opérateur, chef d'éco, directeur de prod, chef opérateur, qui sont payés à 2 500 € par semaine. C'est vrai que c'est des jolis salaires, mais c'est pas toute l'année. Et puis je suis désolé, ils font, c'est des boulots, c'est des sacrées responsabilités, leur boulot, quoi. Donc je leur plains pas ce salaire-là, quoi. Et puis on est dans un métier qui est déjà dérégulé, quoi. Mais même avec la convention collective, on dit la journée de travail, elle va du prêt à tourner, c'est-à-dire du moment où on est prêt à tourner à la fin de journée. Je veux dire, la plupart des gens, ils sont là 1h30 avant, même bien 2 heures pour la régie, maquillage, coiffure. Et la plupart du monde repart 1 heure après, quoi. Voilà. Donc déjà, on est sur une journée de travail qui est vachement longue. Parce que moi, on est arrivé à des temps de tournage de 6 semaines, 8 semaines, peut-être 10 semaines pour les films les plus argentés. Bon, je suis désolé, moi, un film à moi, 6 semaines, ben, c'est court, hein, 6 semaines, quoi. Je veux dire, moi, si on devait respecter les vrais temps de tournage, je pense qu'on pourrait être sur l'inconnu du lac, on aurait dû être à 8 semaines, je pense.
La convention collective,
Il y a tout qui se réduit, quoi. Ouais. Voilà, il y a tout qui se réduit. Mais de toute façon, même ça, la convention collective, je le sens. Moi, je commençais à bosser dans le cinéma depuis la fin des années, depuis le milieu des années 90. Voilà. Et pas forcément comme réalisateur. J'ai commencé aussi à bosser j'ai bossé beaucoup comme régisseur. Je le sens que tout ça se tend, que non seulement il y a les coûts, que non seulement il y a les salaires qui se réduisent, mais il y a aussi le temps de tournage. Il y a tout. Mais moi, l'inconnu du lac, finalement, j'étais parti en me disant, je veux une équipe réduite, mais je voudrais du temps de tournage. J'ai eu l'équipe de réduite, j'ai pas eu le temps de tournage. Voilà. Je voulais vraiment du temps, quoi. Du temps pour tourner en lumière naturelle. Et puis, même, je veux dire, quand on est dans un décor sans coverset, je veux dire, on prend une douche, et bien, quand la pluie se met à tomber, on arrête de tourner, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faudrait redevenir cohérent avec l'économie.
Mais la convention collective, ce que disent les opposants, c'est qu'elle va empêcher cette flexibilité-là.
Non, elle n'empêche pas. La flexibilité, elle y est déjà. À ce compte-là, non. Alors, vous voulez que je vous le rende rigide, le cinéma français? C'est-à-dire, non, si je veux vraiment le rendre rigide, les prods, elles embauchent les mecs à l'année, quoi. Elles embauchent tout le monde à l'année. Moi, en tant que réalisateur, on me salarie à l'année, tout le temps, quoi. Voilà, tout le temps. Et après tout, si je ne tourne pas, moi j'ai des projets, je suis toujours en train d'écrire. Si je ne tourne pas, ce n'est pas ma faute. Voilà. Mais chez Gaumont, dans les grandes prods, il y a des gens qui sont sous contrat comme ça, en exclusivité. Ils ne sont que qu'accolés à une boîte de prod et ils prennent 5-6 000 euros par mois qui tournent ou qui ne tournent pas. Quoi. Voilà.
Des réalisateurs?
Oui, il y a des réalisateurs qui sont sous contrat comme ça, avec des contrats d'exclusivité. Ouais. Par contre, dès qu'ils font le long métrage, ils doivent le faire avec ou Gaumont ou Pathé ou je ne sais pas. Enfin, voilà. Après, sur les tarifs, peut-être que plus que ça qu'ils gagnent, j'en sais rien. Je ne sais pas combien ils gagnent par mois, mais je sais que ça se fait. Quoi. Voilà. Donc, on a de fait, on est quand même le seul métier à avoir cette flexibilité, avoir des contrats à durée déterminée, des CDD de 6 semaines, renouvelables à foison, voilà. Et puis, chacun est pris en charge par le chômage dès qu'il ne travaille pas. Je veux dire, il y a quoi comme profession qui fait ça, quoi? Voilà. Alors, c'est inhérent à nos professions, effectivement.
Oui. Mais je veux dire,
Je veux dire, il y a plein de gens qui travaillent de façon permanente dans les productions et qui bénéficient du régime d'intermittent du spectacle. Au bout d'un moment, il y a une flexibilité, mais la flexibilité, elle est, on en use et on en abuse, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est quoi qui a été remis sur le tapis avec la convention collective? C'était les salaires d'usage, c'était les salaires de référence, et avec des trucs qui paraissent pas si incongrus comme les dimanches sont payés double, le travail de nuit, le dimanche, j'ai dit les images,
c'est
ouais, pas mal de lapsus.
Le micro est en train de tourner.
Merci.
Voilà, donc moi j'ai fait de la régie sur les téléfilms par exemple, sur des j'avais mes samedis payés à 25%, je prenais alors les heures sur plateau, il y avait quand même quelque chose, c'était du mauvais téléfilm que je faisais, mais il y avait quelque chose qui était respecté, quoi, voilà. Et est-ce que c'est si difficile? Moi c'est le côté Et puis c'est le côté que des conneries j'en ai entendu, quoi, du genre on fait du cinéma, moi le dimanche je suis pas fatigué parce que je fais du cinéma, la nuit ça me pèse pas de tourner la nuit,
c'est ça, c'est
parce
la passion,
que parce
c'est
que je fais du cinéma, voilà,
du cinéma,
et ben moi en tant que réalisateur, je suis un réalisateur, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, rien de tout ça, quoi. Et ben ça me fait chier de travailler le dimanche, non, ça me fait chier de travailler 6 jours sur 7 parce que je trouve que c'est quand même beaucoup d'énergie de tourner, quoi. Je trouve le week-end vraiment très bienvenu, quoi, voilà, parce que j'ai envie de faire aussi autre chose. Au bout d'une journée de 10 heures, je commence à en avoir vraiment ma claque. Voilà, de mettre en scène des plans, et encore un autre plan, encore un autre plan. Je trouve que c'est bien que la journée est une fin, quoi. Voilà. Donc, même en tant que réalisateur, finalement, ça m'intéresse aussi qu'on commence pas à avoir des tournages qui puissent s'étirer sur 24 heures, quoi. Ouais. Voilà. Je sais qu'il y a des réalisateurs que ça passionne de travailler 24 heures sur 24. Bon, c'est bien qu'il y ait des garde-fous. On n'est pas non plus obligé d'être tous.
Ceux qui disent que ça arrange les gros producteurs parce que ça fera disparaître la concurrence des petits. Qu'est-ce que vous pensez de cette
question? Je pense que c'est un vrai argument. Après, c'est marrant parce que je reviens aussi moi de l'idée que les gros veulent à tout prix assassiner les petits. Je pense que les gros ont de toute façon intérêt. Enfin, je pense que de toute façon, ils se situent aussi dans de la perspective et ils ont intérêt à ce qu'émergent de nouveaux talents. Et que de toute façon, émerger de nouveaux talents, pour qu'émergent de nouveaux talents, faut qu'on maintienne effectivement. Eh ben, faut garder les premiers films. Faut qu'il y ait toujours un peu du brassage. Faut qu'il y ait des. Faut qu'il y ait du cinéma qui se fasse et du cinéma autre que celui à 10 millions d'euros, quoi, avec de la star, quoi. Voilà. Faut qu'il y ait des nouveaux comédiens qui arrivent, faut qu'il y ait des nouveaux réalisateurs qui arrivent, voilà. Ouais. Donc, je reviens même de cette idée-là, quoi. Voilà. Après, on est dans un monde comme ça aussi, donc je peux pas. On est quand même dans un monde où tout ce temps, où effectivement tout le monde cherche à s'accaparer, y compris les aides publiques, voilà, et l'argent est vachement moins redistribué qu'avant, quoi. Maintenant, via le CNC, via. Mais dans le monde même, enfin, dans la société ailleurs que dans le cinéma, quoi. Voilà. Donc il y a un phénomène concentrationnaire qui fait que les gros deviennent de plus en plus gros, avalent tout, quoi. Voilà, il y a une espèce de ce gros et fond de table rase autour d'eux, quoi. Voilà. Donc effectivement, je me méfie beaucoup de ça, quoi. Mais c'est marrant parce que moi, c'est-à-dire que cet argument, je le retourne et je pense que justement d'être obligé de fixer des règles. Et d'arrêter, qu'on arrête un peu d'aller se glisser dans les trous de la précarité, parce que c'est ça le monde actuel. Les pauvres vont de plus en plus chercher dans les brèches de la précarité qui c'est qui peut le mieux s'en sortir, quoi. Et de mettre en place une vraie politique ambitieuse de et puis moi ça passe, je le répète, mais ça passe par la redistribution des richesses, quoi, hein, voilà. Et de mettre en place ça, moi ça m'intéresse, et qu'on arrête aussi de dire que le cinéma de la diversité c'est le cinéma pauvre, quoi. Alors voilà, moi ça m'intéresse, je me dis que la convention collective va au moins avoir ce mérite, quoi. C'est-à-dire de nous forcer à nous positionner fortement et de nous positionner politiquement sur qu'est-ce qu'on veut faire et quels moyens on se donne pour préserver ce cinéma-là. Après, moi, si jamais on veut pas de ce que je fais, parce que si on veut pas de ce que je fais, bon, voilà, qu'on me le dise. Hein. Mais je sais, de toute façon, je prendrai un autre moyen, mais j'y arriverai. Ouais. Donc voilà. Voilà, peut-être qu'un jour je me retrouverai à faire des films. Je me retrouverai à faire des films soit tout seul, soit à prendre des stars, mais je veux dire, je fonctionne finalement avec le monde tel qu'il est, tel qu'il m'entoure, quoi, voilà. Et les États-Unis, par exemple, ils n'ont pas de statut d'intermittent, ils ont des règles très rigides, hein, d'ailleurs, hein, dans la profession, quoi, voilà. Même pour le coup, peut-être qu'ils exagèrent un peu, hein, et ils ont quand même un cinéma indépendant qui, moi, je trouve quand même très, très, très vivant, très vivace, quoi, très dynamique, voilà.
Non. Mais alors vous, en attendant qu'il se passe cette redistribution dont on va parler, là, en attendant, avec la convention, voilà. Si sur un prochain tournage, on vous dit qu'il faut raccourcir les temps de tournage, vous seriez prêt à sacrifier l'esthétique
Ça, je pensais bien que ça va m'arriver, quoi.
Ouais. Voilà. Donc, vous accepteriez que le plan soit moins parfait parce qu'il y a moins de temps de le perfectionner
De toute façon, on est déjà là-dedans, dans cette perpétuelle négociation entre ce qu'on voudrait et ce qu'on peut faire. C'est là que c'est rigolo aussi, c'est quand même avec 50 briques que je pense qu'on est toujours dans cette perpétuelle négociation. Et bon, c'est peut-être un peu plus tendu, on se sent peut-être un peu plus en danger. Avec sur un film à 600 000 euros. Quand on a 600 000 euros, on se dit merde, c'est carrément le film ne peut pas se faire. Peut ou ne peut pas se faire. Ouais. Alors qu'avec 50 briques, c'est est-ce qu'il y a 10 000 figurants ou est-ce qu'il y en a 5 000 . Bon. Je sais pas, c'est marrant. C'est vrai que c'est.
Est-ce qu'il y a une exception dans l'art, quoi, moi,
ouais. Non, mais moi je reprends par exemple un film. J'aime bien reprendre le cas de ce film de Voici venu le temps, qui est mon deuxième film, où je me suis retrouvé face à ce choix. C'est un film qui était budgété à 3 millions d'euros. C'était exagéré, je pense, mais voilà, ça aurait été bien qu'il y en ait deux, quoi. Ouais. Voilà. Et que je me suis retrouvé à faire avec 800 000,
ah oui.
avec 800 000 euros, avec la prod qui même a porté 100 000 euros, même, où on s'est dit, j'ai vachement réfléchi à ça, hein, c'est-à-dire équipe à moins 50, j'ai tourné en 4 semaines.
Ouais.
4 semaines, c'est débile hein, d'aller ouais. faire un film, un long métrage de cette ambition-là, en hein, 4 ouais. semaines. Et je sais pas, je mets pas tout sur les épaules de la production, hein, c'est pas du tout, c'est aussi je mets bien la question, c'est bien moi qui me suis retrouvé face à cette question, et c'est vrai que j'ai fait aussi ce film parce que je savais pas ce que j'allais foutre si je le faisais pas, parce que je pensais que si j'acceptais pas de le faire malgré les 800 000 euros, ben j'allais passer plein de temps sans tourner, quoi, voilà, et je me suis retrouvé à tourner un film dans une économie c'était totalement incohérent, quoi, voilà.
En quoi, comment ça
en quoi c'est incohérent?
Ouais.
C'est con de se retrouver à faire
le souffle.
Ah ouais, ouais, juste... le film est complètement enfermé alors qu'il aurait fallu du souffle et de l'ampleur, quoi. Il y a un truc que j'ai été complètement incapable de gérer, quoi, moi, là-dessus.
Ah bon? Ah
ouais, ouais, dans la grosse réduction budgétaire, dans le temps de tournage, je me suis retrouvé vaguement à illustrer mon scénario, quoi. Voilà, à mettre mon scénario en image.
Ah oui.
C'est tout.
Ah bon?
Ouais. Et même, on se disait, il faut faire attention à pas faire que ça. Faut aller filmer d'autres choses. Faut un peu essayer de donner de l'air au scénario. Faut faire autre. Et on n'a jamais trouvé le temps.
En plus, le héros, il fait un plaidoyer pour un deuxième jour de repos par semaine.
Ouais, 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 oui, non, mais ouais, ouais, non, mais moi, je
politique.
Oui, oui, tout à fait, ouais, mais je suis beaucoup là-dedans.
Par ici, on dit qu'à l'étranger, l'Unaïf se vend encore très bien.
Alors, nous devons étendre le boycott à l'étranger. Ouais, nous allons frapper un grand coup.
Et que deviendrons-nous quand l'Unaïf ne se vendra plus nulle part?
Nous exigerons la fin des déplacements forcés de bergers. Un salaire de 5000 crobans par an pour chacun d'entre vous, ainsi qu'un deuxième jour de repos hebdomadaire. Et après cela, nous remangerons l'Unaïf.
Et toi, ça va? Tu m'as l'air bien tracassé.
Non, ça va pas, non.
Mais c'est étonnant, parce qu'on en a... C'est même un débat que j'ai eu avec l'équipe, avec les gens de l'équipe. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas, quoi, voilà. Au bout d'un moment... peut-être que... Ouais, peut-être qu'il y a des films qu'il ne faut pas faire, quoi, aussi, tout bêtement. Hein. Voilà, c'est peut-être que moi je trouve que c'est il y a aussi des films auxquels il faut savoir renoncer, quoi, voilà. Est-ce que c'est vraiment coûte que coûte, voilà, c'est le même problème sur Inconnu du Lac, quoi, c'est-à-dire est-ce que s'il y avait eu que les 200 000 euros de PACA, ça valait, c'était intéressant d'aller le faire, quoi. Moi j'y crois pas, quoi, j'y crois pas au bout d'un, enfin, il faut
Vous avez déjà renoncé à faire un film?
C'est important, je trouve, dans un film, de trouver sa cohérence économique, économico-artistique.
Ouais.
Voilà. Enfin, c'est le meilleur travail que puisse faire un réalisateur, un producteur, c'est ça, quoi. Voilà. C'est de trouver cette cohérence. Et même peut-être le meilleur travail que puisse faire un réalisateur tout seul, même.
Ouais.
c'est ça. Et après, renoncer à faire un film, est-ce que j'ai renoncé à faire L'Inconnu du Lac dans un premier temps, ouais.
Ouais.
Et puis, après, est-ce qu'il y a des films qui se sont vraiment cassés la gueule? J'ai renoncé à faire des films, mais pas parce que il manquait du fric. Non, je crois pas. Non, jamais. Ouais.
Bon, et donc dans cette réorganisation qu'il faudrait envisager, parce que en fait finalement la convention collective, tout le monde s'est concentré sur ça, mais ce qu'il faut, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, répartir les financements, parce que l'argent, il y en a en fait. Même le CNC est bien doté.
Il brasse 750 millions par an, quoi.
Voilà, dont 25 millions pour les avances sur recettes, je crois.
Oui, oui, oui. Non, oui, oui, on peut, je pense qu'il y a moyen. Enfin, c'est un sacré levier, quoi.
Ouais.
On a un levier pour agir, ouais, effectivement, on a un levier pour aider le cinéma en difficulté. Voilà.
Et où est-ce qu'il va, cet argent? Il va dans les films, vous savez pas? L'argent du CNC, est-ce qu'il est mal distribué?
Ah oui, ça c'est certain, ouais. Je sais pas exactement techniquement tout ce qui se fait, mais il est de plus en plus mal distribué.
Parce que c'est les gros qui captent, les gros films.
Ah ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, alors moi ça, bon, je vais vous renvoyer à, mais c'est, y a, ben oui, oui, via un fonds de soutien, mais c'est la logique capitaliste, quoi. C'est-à-dire, comme les riches paient plus d'impôts, ils estiment que ils doivent, leur quartier doit avoir des plus belles décorations de Noël. Donc, comme les mecs, les gros financent plus, sont ceux qui apportent le plus d'argent au CNC, finalement, ils estiment qu'ils doivent en avoir beaucoup plus en retour, quoi. Comme les Américains pensent que quelque part, et comme ils financent vachement le CNC avec leurs films, il doit y avoir un peu de retour. Pour l'instant, l'exception culturelle, ne nous l'aurons pas. Ça tient aussi beaucoup grâce au fait que la France aide des mecs comme Jim Jarmusch, comme Kiarostami, comme Derraman Sissako. Enfin, on aide beaucoup le monde entier à faire du cinéma, y compris les Américains, quoi. Hein, voilà. Enfin, le cinéma indépendant américain, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. On est quand même dans une logique. Chacun veut retrouver son l'impôt qui paie. Voilà, c'est le syndrome de Pardieu qui renvoie sa carte vitale. Je vous la renvoie parce que j'en ai, parce que je m'en suis jamais servi. Bon, voilà. Enfin, la Sécu, la Sécu que je sache, c'est à chacun ses moyens, à chacun selon ses besoins. Si t'es pas malade, t'en sers pas. Mais bon, voilà. Mais ça n'empêche pas d'y contribuer. Voilà. C'est, ouais, il y a un côté, je paie vachement d'impôts et puis j'ai rien qui revient. Donc, non. Et en plus, finalement. Ouais, ils captent, ouais. C'est, ouais, quand même, les classes dominantes se démerdent quand même bien pour capter les ressources publiques, ouais. En règle générale, ouais. Pas qu'au niveau du cinéma, ouais.
Et alors, il y a aussi, donc, le poids des télévisions, parce que c'est elles qui financent, sont elles le premier guichet de financement du cinéma?
Ben, pour L'Inconnu du Lac, pas du tout.
Oui.
Non, c'est sûr. Je pense que dans le cinéma du milieu, par exemple, ouais, dans les films à 3-4 millions, je pense que c'est vachement la télé, ouais. Voilà.
Et du coup, faudrait les forcer à financer en partie des films d'auteurs, enfin, je sais pas si.
Bah, ou au moins les chaînes l'audiovisuel, que ce soit en termes de contenu de leur programme, et en termes d'obligation de production, ouais, je pense qu'il faut les obliger à un minimum de choses là maintenant, quoi. Ça devient n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ils sont au taquet culturel avec ce soir ou jamais de Frédéric Taddeï, quoi, ou avec Libre cours, ou Histoire courte, et encore, même en court métrage, ils se débrouillent pour acheter ce qui se fait de plus populaire, de plus démagogique, de plus grand public, de plus de moins, de pas si novateur que ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a pas d'aide. Enfin, je sais pas, moi quand même, la télé quand j'étais ado, bon, il y avait qu'une télé publique, faut dire. Mais c'est un truc qui me faisait découvrir des choses, quoi. Ça me faisait découvrir le monde, quoi. Et pas que les animaux, les gentils animaux dans les léopards et les éléphants dans la savane, quoi. Enfin, ça m'apprenait, ça a éveillé ma curiosité, quoi. Moi, je pense que même j'ai vu beaucoup de choses nouvelles pour moi et de choses même intrigantes, franchement, je me dis, un gamin ou un ado, ou même moi, qu'est-ce que je me retrouve, avec quoi je me retrouve. Et je les vois pas aider quoi que ce soit d'audacieux en production cinéma, quoi. Hein, voilà. Alors que Canal est quand même assujetti à ce cahier des charges, à un certain cahier des charges, quoi. Voilà. En termes de cinéma, de la diversité, quoi. Voilà.
Mais d'où est-ce que ça vient que vous avez cette politisation, cette culture politique, qu'on retrouve pas forcément chez beaucoup de cinéastes.
Ben, moi, j'ai été très militant, quoi. Ouais, j'ai été
toujours.
Très militant. Toujours. C'est pas familial, hein. C'est,
non.
Non, c'est pas du tout familial.
Mais parce que vos parents sont agriculteurs, c'est ça?
Ouais, agriculteurs. Mon père était ouvrier, mais ouais. C'était pas. Je trouve pas qu'ils étaient très. Enfin, oui, ça fait. C'est des agriculteurs gaullistes, voilà, qui ont vécu sur le mythe de Gaulle, voilà. Qui ont voté à droite jusqu'à Sarkozy. Sarkozy, ouais. C'était plus possible.
Quoi.
Voilà. Donc, grosso modo, jusqu'à Chirac, ça marchait. Parce que, oui, Chirac, il y avait encore aussi l'idée d'une grandeur de la France, d'un mec simple à hauteur humaine, et qui incarnait, je pense, encore cette force gaulliste. Quoi. Alors que Sarkozy, non, c'est bling bling, c'est un autre monde, quoi. Ouais. Et donc, très vite, mais c'est marrant, quand j'étais ado déjà, je traînais beaucoup avec des jeunes d'extrême gauche, des maoïstes, voilà, au lycée, voilà, qui éditaient un journal qui s'appelait Combat lycéen. Et puis après, quand même, je me suis dit non, et je me suis dit, c'est bien quand même d'être dans un truc où il y a du monde, où il y a un peu plus. Et je suis allé au PC, me suis inscrit au PC en 85. Et donc, je pense que j'ai effectivement une vraie culture politique depuis un paquet de temps, quoi. Voilà. Et bon, oui, j'ai toujours été aussi syndiqué, plus ou moins, enfin, pas forcément toujours à la CGT, mais j'ai souvent été syndiqué.
Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont syndiqués comme ça
Syndiqués à la CGT, non, mais enfin, la SRF, à la SRF, il y a pas mal de réalisateurs, quoi. Et notamment avec la convention, avec le débat sur la convention
collective,
où il y a eu un fort clivage, on en a vu beaucoup reprendre leurs cartes d'adhérents, qui sont venus adhérer avant la dernière assemblée générale, Et la SRF, brasse quand même pas mal de réalisateurs, Il y a pas mal de réalisateurs. Mais après, je ne me rends pas compte, si on est plus ou moins politisé qu'ailleurs, quoi.
Bah, c'est un milieu qui, culturellement, est très de gauche, mais justement, sur cette question, d'un coup,
la gauche, je veux dire, même quand on dit de gauche, on n'a pas dit grand-chose, jours, c'est-à-dire que même les points de clivage, je veux dire, entre ça rappelle un peu le traité de constitution européenne. On vous en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça rappelle vachement la bataille sur le traité de constitution européenne. Mais je veux dire, moi, finalement, quand on parle, enfin, en politique, quand on parle de qui, y a, grosso modo, les anticapitalistes, ça va du Front de gauche à lutte ouvrière. C'est-à-dire un peu faible pas. Et après, des écologistes au PS jusqu'au Front National, ça défend le capitalisme. Enfin, l'idée du marché qui fait sa loi, voilà. Bon, je veux dire, on l'adoucit ou on l'adoucit pas. Voilà, mais c'est très dur au Front National, c'est très doux chez les écologistes, au PS. Et encore, ça, chez Benoît Hamon. Chez Barcelone, Hollande, on est quand même dans le capitalisme.
Oui, bien sûr.
Donc, chez nous, je me dis, alors bon, je fais des parallèles, là je me lance dans des trucs un peu glissants, quoi. C'est vrai que chez nous, on a retrouvé ça. Mais il y a quand même aussi une. C'est un signe des temps aussi, ça, je trouve. La façon dont on peut retrouver complètement. Des collusions assez improbables. Voilà. C'est-à-dire. À la fois, effectivement, on se dit les gros et la CGT, les gros producteurs, mais très gros, c'est-à-dire Gaumont, Pathé, UGC et la CGT sur la convention collective, mais aussi le gros cinéma d'auteur, vraiment du lourd, quoi, avec des jeunes réalisateurs qui ont super la pêche et qui ont envie de faire plein de choses et pas forcément naïfs en plus, je veux dire, je vais pas non plus les faire passer pour des couillons parce qu'ils défendent, ils sont contre la convention collective, je veux dire, ils ont leurs raisons et bon, c'est leurs arguments sont recevables, quoi, voilà. Il y a quelque chose comme ça, quoi, qui est très étonnant, il y a des clivages qui traditionnels qui sont un peu en train de sauter, quoi. Voilà. Ouais, le traité de constitution européenne, par exemple, on me disait, ouais, mais t'es complètement con, ou Maastricht, tu as voté comme Le Pen.
Ouais. Voilà.
Ouais, bon, je veux dire, je vote la même chose, pas pour les mêmes raisons, mais bon, voilà. C'est...
Et tout à l'heure, vous disiez qu'il allait y avoir le débat sur les intermittents. Enfin,
et alors, ouais, et,
voilà. C'est quoi votre position sur ça, votre avis?
Alors, le débat sur ouais, les intermittents. En fait, sur le régime d'assurance chômage des professionnels du spectacle. Non, mais non, c'est évident que ça va revenir sur le tapis. Que va encore revenir sur le tapis cette idée de comment dirais-je, de est-ce que ça sert à quelque chose de est-ce que le cinéma ou le spectacle doit être financé par l'UNEDIC, quoi. Voilà. Il y a quand même, on est encore en but à ce problème-là, quoi. Alors, je sais pas trop la tournure que ça va prendre parce que effectivement, la dernière réforme a bien foutu en l'air tout ce qui était les pauvres du régime de l'intermittence ont bien été éjectés, quoi. C'est-à-dire tout le spectacle de rue, le théâtre qui vivotait. Enfin, de ce côté-là, moi, j'en connais plein qui ont repris un boulot carrément normal, quoi. Entre guillemets, ben voilà, qui ont arrêté ces trucs-là. Donc là, j'ai l'impression peut-être qu'on n'est plus que les riches des intermittents du spectacle à être concernés par ce truc. Mais je pense que ça va. Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas, je pense que je vais vachement m'intéresser aux chiffres, par exemple, de combien ça coûte à l'UNEDIC. C'est. Ouais, quand même. C'est un. Enfin, je vais pas dire que c'est un régime de privilégiés, mais avec les réformes successives, parce que sur la dernière, quand même dans le cinéma, il y a quelques hauts salaires, quelques gens, dont moi, hein, qui gagnais bien ma vie à l'époque, j'ai vu mes indemnités augmenter quand même.
Ah ouais.
Ouais, voilà. Des histoires de plafond qui ont augmenté, des histoires. Et dans le cinéma, c'est assez peu mobilisé, je trouve, par rapport à d'autres corps de métier, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, c'est-à-dire que, non, surtout, je vais pas me prononcer sur le régime des assurances, mais ça va être très drôle de voir des gens qui, finalement, sont pour une baisse de salaire dans le cinéma, quand on travaille, chercher à garder un même niveau d'indemnisation dans le cinéma. Voilà, c'est-à-dire que, finalement, ben ouais, on vit le chômage comme un complément de salaire, quoi. Et ça, ça me gaffe vraiment, quoi, dans le cinéma. Enfin, dans le spectacle, quoi. Ouais, voilà. Je sais que, enfin... donc, il y a des choses dont il va falloir qu'on parle, quoi. Enfin, on en avait un peu parlé la dernière fois, je trouve, mais il y a des choses dont il va falloir qu'on parle. Et après, effectivement, je veux pas non plus me faire l'avocat du diable. Moi, je reste attaché à l'idée qu'on maintienne un régime d'assurance chômage spécifique pour les professionnels du spectacle. Ouais. Parce que je pense que ça, c'est cohérent, quoi, avec les exigences du métier et tout ça. Voilà, va falloir peut-être. Mais ça serait bien qu'on réfléchisse à payer le travail à son juste prix et qu'après on voit le chômage. Et que le chômage ne cherche pas à payer du travail. Voilà.
Bon. Ça serait. Ah, merci.
Putain, c'est fatigant, hein, c'est vous conneries.